Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias, je m'appelle Steven Jambeau et on est ensemble pendant une vingtaine de minutes. Cette semaine, nous allons nous intéresser à une application mobile qui a pour objectif de sauver des vies. Save Life rassemble une communauté de sauveteurs bénévoles qui acceptent d'être alertés par les services d'urgence pour se rendre le plus vite possible au secours des personnes qui font un arrêt cardiaque. En fin d'émission, Mondoblog Audio nous donnera un aperçu des débuts de la télémédecine en Haïti, intervenu après le tremblement de terre en 2010. Mais tout de suite, place à Écouter le Monde.
RFI.
Bonjour Monica Fantini.
Bonjour.
Les auditeurs de RFI vous connaissent peut-être pour votre émission qui s'appelait Écouter Paris, lancée en 2013, qui est devenue Écouter le Monde en 2016. Elle est diffusée chaque samedi sur notre antenne. Mais derrière ce joli titre, il y a aussi une plateforme en ligne, écouterlemonde.net, qui se veut, je cite, une sonothèque en libre accès pour le public, les artistes et les chercheurs. Pouvez-vous nous expliquer quel a été votre constat de départ pour créer cette plateforme ?
Les constats des départs, c'est un amour du départ, l'amour du son. Et l'idée de partager cet amour-là avec des journalistes, des compositeurs, des anthropologues, des historiens. Parce qu'imaginez-vous que tous ces gens-là travaillent avec les sons. Et quand je dis les sons, je parle des sons du quotidien, c'est-à-dire l'environnement sonore, les sons dans lesquels nous sommes plongés dès l'aube à la nuit, dans nos villes, dans nos mondes. Et de dire aussi que le son raconte, le son est information. C'est une trace aussi, une trace de nos vies, du passé. Donc c'est de tous ces pensées-là qu'est née la sonothèque Écouter les mondes. Mais je ne l'ai pas fait tout seul. Il y a bien évidemment RFI, il y a un programme qui s'appelle Europe Créative de l'Union Européenne qui nous soutient et cofinance les projets. Et puis il y a un conservatoire, les conservatoires de musique de Venise, et puis la classe de musique électroacoustique à partir des sons du quotidien. Eux, ils en font des compositions musicales. Il y a aussi une école de journalisme, EGICOM, à Dakar, engagée. Et qui pense justement que les sons informent et n'est pas seulement une illustration sonore. Et puis enfin, il y a BNA, BBOT, c'est une association. Et c'est aussi une sonothèque, une des plus anciennes et plus riches sonothèques participatives d'Europe, qui récolte, si on peut dire, la mémoire sonore de la ville de Bruxelles. Ça s'appelle donc Bruxelles nous appartient et c'est dirigé par une philosophe.
Si l'on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce que pour votre plateforme, vous avez lancé un appel à contribution en demandant aux gens des quatre coins du monde de vous faire parvenir des sons de la vie quotidienne. Je vous propose d'écouter un exemple de ce que vous recueillez sur écouterlemonde.net. Qu'est-ce que l'on vient d'écouter, Monica Fantini ?
L'on vient d'écouter les cloches de Venise, Place Saint-Marc, à minuit. Et c'est un son vraiment des Vénitiens, c'est-à-dire que c'est un son séculaire et c'est les seuls sons qu'on peut entendre partout, où que l'on soit, à minuit, à Venise, on entend les cloches de la Marangone. C'est vraiment une trace et un son qui fait partie de l'identité sonore de cette ville-là. C'est un exemple, mais des sons dans la sonothèque et dans écouterlemonde.net, il y en a de partout, de Paris, de Venise, de Bruxelles, du Caire, du Quito, d'Hanoï, des trains indiens, des bateaux d'Istanbul, de bus de Dakar, par exemple les cars rapides. C'est vraiment là aussi une marque sonore de la ville, ce sont des fourgonnettes qui traversent la ville, qui sont des moyens de transport très colorés, très bruyants aussi, et ça c'est un autre exemple, ça peut être du bruit des marchés, des vendeurs de rue, tout ce qui fait partie de notre ville. Il faut aussi imaginer tout ce qu'on entend de l'aube à la nuit, dès qu'on se réveille jusqu'à quand on s'endort.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve tous ces sons sur une carte, sur une map monde, qui géolocalise justement ces pastilles sonores, ces sons de la vie quotidienne. C'est un véritable voyage que vous proposez d'une certaine façon.
c'est un voyage et aussi un patrimoine. C'est-à-dire qu'il y a la carte des sons, et la carte des sons est un projet peut-être aussi utopique, en tout cas collectif, participatif, où on veut mettre à disposition de tout le monde, sous licence Creative Commons, ces sons pour en faire des émissions radio, des créations, pour en faire aussi des outils pédagogiques. Vraiment, c'est pour tout le monde. Et cette carte, effectivement, est géolocalisée, et puis les contributeurs, bien évidemment, sont nommés.
Et ceux qui nous écoutent, nos auditeurs de RFI, peuvent-ils contribuer directement sur votre site ?
Absolument, ils peuvent contribuer.
Quel que soit le matériel dont ils disposent ?
Alors oui, les sites s'appellent justement Écouter les mondes et tout le monde. Et comme vous avez pu entendre, il y a des journalistes, des compositeurs, des gens qui viennent d'horizons très très différents. C'est vraiment les principes. Et c'est là les côtés un peu utopiques et collectifs de ce projet. Bien sûr, tout le monde peut participer. On peut même enregistrer avec son téléphone. Il y a un minimum de qualité requise. Et aussi, il faut faire un choix précis. Quels sons on veut partager? Pourquoi on veut les partager? Est-ce que ces sons racontent quelque chose pour soi? C'est ça la démarche. Mais et aussi, je précise, il doit s'agir d'un enregistrement brut. Ce n'est pas des compositions, des montages, c'est une prise des sons, de la vie quotidienne brute. Il faudra se demander quels sont les sons qui caractérisent les lieux où on habite.
Et ce qui est intéressant aussi sur votre site écouterlemonde.net, c'est que l'on peut envoyer une carte postale sonore numérique, au sens numérique du terme, c'est-à-dire de choisir un exemple sonore venu de quelque part dans le monde et de l'envoyer à ses amis, à ses contacts, par email. Expliquez-nous le pourquoi du comment.
Oui, oui. La carte postale sonore, justement, donc il y a la carte des sons, qui est une carte participative où tout le monde peut contribuer et amener cette matière première qui sont les sons. Et pour moi, c'est une matière infinie. On peut faire mille choses, dont des cartes postales sonores. Les cartes postales sonores, ce sont des petites créations, c'est-à-dire qu'un artiste a écouté un son, il a dessiné, il a inventé une image, et puis on a créé ces cartes postales sonores qu'on peut partager, envoyer par smartphone, à travers l'ordinateur, où on peut écrire un mot personnalisé et envoyer à une amie, à une personne à qui on veut, les sons et l'image liée au son.
Depuis plusieurs années, vous êtes spécialisé justement dans ces sons de la vie quotidienne à travers le monde. Dans quelles conditions vous mettez-vous, vous, personnellement, lorsque vous recevez de quelque part dans le monde un son ?
Effectivement, ça fait quelques années que je fais ça. Alors, c'est mon mot préféré, les gens se moquent de moi, mais c'est vraiment, pour moi, c'est magnifique. Parce que c'est pas simplement voyager en touriste, c'est rentrer un peu dans l'intimité des gens. Pour moi, les sons est une trace, comme j'ai dit, de la vie, comme n'importe quelle autre archive. Mais la particularité, c'est une vibration. C'est une trace vivante. Elle est un mouvement.
C'est une mémoire vivante. C'est l'expression que vous utilisez aussi.
Tout à fait. C'est une mémoire vivante qui permet d'être là, en fait, qui donne cette possibilité d'être là, là où ça se passe, et être dans la vie. Quand vous écoutez, par exemple, des vendeurs de rue dans une petite ruelle de Hanoï, eh ben, ce sont les voix, et c'est comme si on y était, en fait. C'est comme être là. Quand vous entendez, comme vous l'avez fait, la cloche de minuit à Saint-Marc, c'est pareil. Ça permet d'être dans la vie, en fait, d'être dans la vie des autres.
Y a-t-il un autre exemple sonore que vous souhaiteriez nous partager ?
Oui, peut-être un son de Bobo Dioulasso. Un son de Bobo Dioulasso au Burkina Faso que j'ai enregistré avec les enfants. Parce que dans ces projets d'écouter les mondes aussi, on se déplace, on a réalisé plusieurs ateliers dans les mondes, à Dakar, à Bruxelles, à Venise. Et là, c'est un atelier avec les enfants de Bobo Dioulasso qui m'ont guidé, eux, dans leur vie quotidienne pour enregistrer les sons qui les entourent. Ça donc, c'est les sons du marché de Coco à Bobo Dioulasso, où on a fait un atelier avec les enfants. Et ce qui est très intéressant, vous me posiez la question tout à l'heure, comment on écoute ? Ben, comment on écoute des sons qu'on n'a jamais écoutés, qui arrivent du monde entier ? Moi, je pense que d'abord, on les écoute avec l'imaginaire. Et que la nature même du son, le fait qu'il soit invisible, insaisissable, fait qu'on commence à l'écouter et on construit des images mentales en soi. C'est la première étape pour écouter. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce projet souhaite vraiment interroger l'écoute, comprendre qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire qu'écouter. Et l'écoute passe par des voies mystérieuses, c'est-à-dire on n'écoute pas qu'avec ses oreilles, on écoute avec sa mémoire, son histoire, ses souvenirs, ses fantômes. Pour vous faire un exemple, ces enfants du quartier des Cocos, ce que j'ai fait, je suis arrivée moi aussi avec les sons de Paris, les sons du métro, les sons de la ville. Et quand je leur ai fait écouter les sons du métro sans leur dire ce que c'était, eh ben, ils ne comprenaient pas, ils étaient émerveillés par ces sons mécaniques. Puis je leur ai expliqué ce qu'ils ont fait, je leur ai demandé de dessiner ces sons, et ce qu'ils ont fait, ils ont dessiné des taxis-brousses sous terre, en fait. Parce que eux, ils savent pas ce que c'est que le métro, et ils l'avaient jamais vu. Et c'est pour dire à quel point, effectivement, le son est un lien aussi pour rentrer dans les mondes des autres, et puis, pour les comprendre, effectivement, on passe toujours par l'imaginaire. Si on les connaît pas, si on n'a jamais entendu ces sons-là, pour arriver après à connaître une réalité, une culture, l'autre.
Merci Monica Fantini. Je rappelle votre plateforme écoutezlemonde.net et l'appel à contribution, rappelez-nous, est ouvert jusqu'à quand?
Alors, il faut se dépêcher, il est ouvert jusqu'à 15 février et il s'appelle Écoutez nos mondes, parler de nos écoutes. Aussi, peut-être on pourra se revoir, mais à la fin de l'appel, début mars, le 8 mars, on est invité à la Bibliothèque nationale de France pour un colloque, pour présenter le projet écoutezlemonde.net et pour parler aussi de toutes ces contributions. On va écrire un livret manifeste qui s'appelle, lui aussi, Écoutez nos mondes et parler des gens écoutent.
Et je rappelle que Écoutez le monde est diffusé chaque samedi sur RFI.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Poursuivons avec quelques informations qui ont retenu l'attention de l'équipe de l'Atelier des médias cette semaine. Le Brexit, c'est-à-dire la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, va causer quelques soucis à la BBC. Le géant de l'audiovisuel public britannique risque fort de perdre ses droits de diffusion dans tous les pays européens à compter de la fin mars. Pour conserver sa licence et continuer à émettre, celle que l'on surnomme outre-Manche la BIB, envisage d'installer, je cite, un important bureau dans l'Union européenne. Cela pourrait être à Bruxelles ou encore à Amsterdam. Outre la BBC, plus de 500 chaînes internationales basées au Royaume-Uni vont être confrontées à ce problème, dont Discovery Channel, Disney, MTV, CNN ou encore National Geographic. Sur Internet aussi, le Brexit va se faire sentir. De nombreuses organisations et entreprises du Royaume-Uni vont devoir migrer le plus rapidement possible leur site Internet vers des noms de domaines qui ne se terminent pas en .eu. Sous peine de voir leur nom révoqué par la Commission européenne. En France, le journal L'Humanité, fondé en 1904 par Jean Jaurès, est en péril. Le quotidien communiste connaît depuis de nombreuses années une situation financière difficile. Il est en cessation de paiement. Son directeur appelle à la mobilisation générale. Il lance un appel aux dons tout en jouant la carte de la transparence auprès de ses lecteurs. L'UMA compte 175 salariés, dont 124 journalistes. Il diffuse chaque jour 33 000 exemplaires contre 350 000 au plus fort de sa gloire. Et puis, explicite.info, c'est fini. Le site d'information lancé fin 2016 par une cinquantaine d'anciens de la chaîne française iTélé dépose le bilan. La faute, là aussi, à des moyens financiers insuffisants.
RFI.
Je le disais en introduction, nous allons vous présenter l'application Save Life que tout citoyen volontaire peut installer sur son téléphone mobile et se rendre ainsi disponible pour les services d'urgence lorsqu'il y a une personne en arrêt cardiaque à proximité. Pour en parler, le docteur Lionel Lameau est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Lionel Lameau, vous êtes le président de Save Life. Pouvez-vous d'abord nous raconter comment est née cette application? Comment est-ce que tout cela a commencé?
L'histoire, c'est que je suis médecin au SAMU. Le SAMU, comme vous le savez, c'est ce service préhospitalier qui amène des médecins chez vous, qui amène l'hôpital à la maison et qui répond aussi au téléphone à toutes les urgences médicales que vous pouvez avoir. Il est accessible en France au numéro 15.
D'accord.
Cette histoire, c'est que nous prenons régulièrement en charge des patients en arrêt cardiaque. Nous avons développé des tonnes de techniques très spécialisées pour les prendre en charge sur le plan médical.
Pour intervenir le plus vite possible.
En termes de délai et aussi de spécialisation et même de technicité, des choses très compliquées comme des circulations extracorporelles, c'est pas le but aujourd'hui, mais on peut faire beaucoup de choses. Malheureusement, si personne ne fait un massage cardiaque dès le départ, ça ne sert à rien tout ce qu'on peut mettre en place. Et donc l'idée est venue de là, c'est-à-dire que nous intervenons fréquemment sur ce type de malade et on était un peu désespérés de voir que des gens étaient à côté, auraient pu agir, mais ne le savaient pas. Et alors qu'ils étaient volontaires pour venir.
Donc là, l'idée, c'est de gagner de précieuses minutes d'intervenir le plus vite possible.
Exactement. Il faut savoir que dans un arrêt cardiaque, une minute sans massage cardiaque, c'est 10% de survie en moins. C'est donc, tout se joue à la minute près. Les secours, en France, mettent en moyenne, malgré une organisation parfaite, de 14 minutes. C'est très court.
Mais c'est énorme tout de même.
Mais pour cette pathologie, c'est trop long. Il faut donc qu'on agisse tous pour pratiquer un massage cardiaque et peut-être même ce qu'on appelle la défibrillation, qui est un moyen de faire repartir le cœur que nous pouvons tous faire grâce à des appareils qu'il y a partout maintenant, qu'on appelle les défibrillateurs.
Très concrètement, comment fonctionne cette application que l'on peut trouver sur iOS ou sur Android?
Alors cette application est extrêmement simple, elle est déjà gratuite pour tout le monde. Vous la téléchargez, vous inscrivez, tout le monde peut s'inscrire, qu'il soit professionnel ou non, qu'il ait un diplôme en secourisme ou non.
Alors justement, je l'ai installé sur mon téléphone portable et au moment de l'inscription, on m'a demandé mon nom, mon prénom, mon âge, mon numéro de téléphone et également on m'a proposé quatre possibilités en termes de formation, soit volontaire non formé, volontaire formé aux gestes d'urgence, secouriste ou alors professionnel de santé. C'est important d'avoir cette classification et ce détail.
Alors, cette classification va nous permettre en fait pour les algorithmes qui vont décider les gens qui vont intervenir, de trouver la personne la plus adaptée en situation d'urgence. Et donc, on va pouvoir faire les choses de manière stratifiée. C'est-à-dire que, même si vous n'êtes pas formé, mais vous êtes à une minute, c'est très intéressant que vous y alliez pour réaliser un massage cardiaque. Ou vous n'êtes pas formé, vous êtes proche d'un défibrillateur, courir prendre un défibrillateur pour l'apporter ne demande aucune formation. Vous êtes médecin, vous êtes un peu plus loin, ça va nous intéresser que vous alliez sur place, même s'il y a des gens déjà en train de faire le massage cardiaque, pour les aider, parce que vous êtes un professionnel probablement mieux formé qu'eux. Donc voilà, c'est pour essayer de stratifier les choses. Mais ce qui est important, c'est que même non formé, vous allez pouvoir sauver une vie.
Donc là, l'idée, c'est que tout un chacun a cette application sur son téléphone, activer la géolocalisation, et que le SAMU, lorsqu'il reçoit un coup de téléphone de quiconque qui signale un arrêt cardiaque, envoie une alerte sur l'application Save Life.
Exactement. C'est-à-dire que vous avez téléchargé votre application, vous avez dit votre niveau de formation, vous avez accepté la géolocalisation en permanence, on y reviendra probablement. Et effectivement, quand nous allons recevoir au SAMU, au 15, un appel d'urgence sur une urgence vitale comme l'arrêt cardiaque, nous allons envoyer les secours traditionnels, les pompiers et le SAMU en parallèle. Et on va déclencher cette application. Toutes les personnes qui sont dans un rayon de 10 minutes à pied autour vont recevoir un SMS et une notification pour leur demander si elles sont disponibles pour aider. On comprend très bien que vous ne soyez pas disponible pour aider, ou de ne pas voir votre téléphone. Si vous êtes disponible, vous allez dire « je suis disponible ». Et à ce moment-là, vous allez avoir l'adresse et une géolocalisation précise, et vous allez être guidé par le GPS pour y aller.
Justement, début janvier, j'ai repéré sur Twitter un fil de message posté par un utilisateur de Save Life. Il s'appelle Jérémy, il habite à Paris, et je l'ai appelé justement pour qu'il nous raconte ce jour de début janvier où il a reçu sa première notification d'urgence Save Life.
C'était un dimanche soir où je rentrais paisiblement chez moi. J'arrivais au 4e étage, j'habite au 5e, il n'y a pas d'ascenseur. Donc vous imaginez, quand j'arrive au 4e et que je reçois la notification, il y a ce flottement de 10 secondes à se dire « Ah, j'avais presque oublié que j'avais installé cette appli, mais là, il semblerait que quelqu'un ait besoin de moi, donc on redescend les marches, on y va en courant. »
Que vous dit la notification? Qu'il y a un arrêt cardiaque à Paris, à 10 minutes de chez vous, c'est ça?
C'est ça. J'avais l'adresse, j'avais une notion du temps de trajet. Et donc, on sait que dans ce genre de situation où une vie est très potentiellement en jeu, on n'hésite pas trop longtemps et on y va.
Donc, on y va en courant?
On y va en courant dans le froid et la nuit parisienne.
Et alors, vous êtes arrivé sur place et qu'est-ce que vous avez découvert?
Je suis arrivé en même temps que trois autres personnes. J'ai essayé de rentrer dans le building et essayer de repérer où c'était. Il s'avère que les portes étaient déjà grandes ouvertes et quelqu'un m'a intercepté en me demandant si c'était bien pour Save Life. J'ai répondu que oui. Et donc, il y avait déjà deux personnes qui étaient au chevet de la personne victime, sans doute d'un arrêt cardiaque.
Et là, la fin est heureuse. Le cœur de la personne est reparti. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes déjà sauvées grâce à Save Life?
Alors, sur les premiers chiffres, au bout de 8 mois, on a déjà 8 patients qui ont eu un cœur qui est reparti avec le concours de Save Life. C'est une chaîne de survie. Donc, c'est Save Life, c'est les pompiers qui vont arriver, le SAMU et l'hôpital derrière. Il y a déjà eu ces 16 personnes dont le cœur est reparti avec une intervention de sauveteurs avant l'arrivée des secours, de citoyens qui sont venus, comme ce monsieur, aider quelqu'un qui est en détresse vitale.
Combien d'utilisateurs compte Save Life aujourd'hui ?
95 000 personnes ont téléchargé l'application quand on se parle.
Et combien d'inscrits ? Alors là, c'est surtout... Les inscrits, pour l'instant, sont principalement en Île-de-France, c'est bien cela ?
Non, c'est au niveau national, même dans les DOM-TOM. On a ouvert la semaine dernière l'île de la Réunion, par exemple. Il y a 17 départements aujourd'hui en France qui sont activés. Il y en a d'autres qui ouvrent régulièrement. On ouvre, par exemple, la semaine prochaine, La Roche-sur-Yon, plein d'autres centres. Progressivement, on a 8 mois d'existence.
Justement, si on fait un petit retour en arrière, est-ce que cela a été difficile de convaincre les services d'urgence français, notamment le SAMU, avec lequel donc Save Life est en lien très très étroit ?
Alors c'est un projet, je suis moi-même médecin au SAMU, donc c'est un projet de professionnel qui était dès le départ présenté aux professionnels.
Mais votre hiérarchie, il a fallu la convaincre, non ? Ça paraissait évident pour tout le monde ?
C'était évident. On avait besoin de ça. On savait qu'on avait besoin d'avoir des citoyens qui avaient besoin d'agir immédiatement. Comme je vous le disais, ça ne sert à rien de faire une médecine extrêmement compliquée si, entre citoyens, on ne commence pas à s'entraider et à faire ce fameux massage cardiaque pour sauver des vies.
Ce qui est particulier, c'est que cette application, elle est portée par une association et pas par les autorités ou pas par le SAMU directement. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Alors, c'était pour avoir une méthodologie plus rapide dans notre développement, pour aller vite, pour sauver le plus de vies le plus rapidement possible. L'association nous donnait une certaine souplesse pour trouver entre autres des fonds avec des donateurs. On en a eu 4 dès le départ, hein, on va les citer, c'est les sociétés Uber, les Galeries Lafayette, CityCare et Les Dauphins qui est un constructeur d'ambulance.
J'imagine que les coûts de développement d'une telle application sont tout de même importants et donc il est essentiel pour vous d'avoir de gros acteurs comme ça en mesure de mettre les fonds nécessaires.
C'est quelque chose que j'ai découvert, ouais. Effectivement, les coûts technologiques de ce type d'application qui demande derrière en fait une très haute technologie en termes de géolocalisation, d'algorithme, de répartition des gens. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est quand même extrêmement complexe et l'entretien aussi extrêmement coûteux. Donc on cherche effectivement en permanence des partenaires. On a fait par exemple une séance de crowdfunding actuellement sur Ulule. Voilà, on est tout le temps dans la recherche effectivement de fonds.
Et c'est une application qui est évidemment sans publicité, sans but lucratif, sans gratuite, tout est pensé vraiment...
C'est une association loi 1901 à but non lucratif, vous n'avez pas de publicité, les données ne sont pas revendues, elles sont complètement protégées, il ne faut pas s'inquiéter pour ça.
Vous avez été consacré, on peut le dire, au CES de Las Vegas, au salon de l'électronique, où vous avez reçu le trophée coup de cœur d'ailleurs, c'est original, 2019, du village français du CES, et c'est d'ailleurs la première fois qu'une association recevait un tel prix.
Oui, on était extrêmement flattés de ce prix dans le village francophone. Ça montrait plusieurs choses. Ça montrait qu'on a trouvé un public, une action qui avait sens, la technologie avait un sens dans ce qu'on faisait. Et puis la partie technologique aussi. C'était important pour nous cette reconnaissance par les professionnels de la technologie de montrer que cette application développée par une association à visée médicale avait une plus-value technique extrêmement forte.
Ça vous a permis également d'avoir des contacts avec des géants de la technologie, des géants de l'Internet ?
Des contacts très intéressants, effectivement, avec plusieurs potentiels partenaires.
Est-ce que l'idée, c'est peut-être aussi de se lancer à l'international ou pour l'instant, c'est un petit peu prématuré ?
Ça avance. En fait, on a été contactés par des confrères à l'international et on a des pistes sérieuses d'ouverture vers le Canada, vers les États-Unis, vers la Belgique plus proche de nous, l'Espagne ou l'Italie.
Et seriez-vous justement prêt à partager la technologie que vous avez développée, vu que vous êtes à but non lucratif ?
Bien sûr, c'est l'une des idées, hein, c'est d'avancer dans ce sens-là.
Et docteur Lameau, vous me racontiez en préparant cette émission qu'il va y avoir une évolution technique majeure pour Save Life dans les semaines à venir.
Oui, en effet, à partir du mois de mars, on va avoir la visioconférence. Ce qui veut dire que pour la première fois, les services de secours en France vont pouvoir voir en temps réel ce qui se passe sur les lieux de l'intervention. Comme je vous le disais, on prend des gens non formés, on les guide au téléphone en permanence, et là, on va pouvoir les voir et les aider avec la vision pour les aider à réaliser les gestes qui sauvent.
Pour avoir une idée réelle de l'intérêt d'une application comme Save Life, pouvez-vous nous donner les chiffres du nombre d'arrêts cardiaques en France chaque année ?
Alors, c'est un problème de santé publique majeur. C'est une des toutes premières causes de mortalité. En France, 50 000 personnes meurent d'un arrêt cardiaque. Le taux de survie aujourd'hui...
Chaque année ?
Oui, chaque année. Le taux de survie n'est guère plus que de 5%. C'est pas une fatalité. Si on agit immédiatement, on a des études nord-américaines qui avaient été faites dans des circonstances très particulières où ils arrivaient à agir dans les 3 premières minutes, ils avaient plus de 70% de survivants. Je vous dis pas qu'on va arriver à ça, c'est techniquement pas possible, mais entre 5% et 70%, on peut peut-être faire un peu mieux et sauver de nombreuses vies.
Tout à fait. Merci Lionel Lameau d'être venu dans l'atelier des médias. On rappelle que Save Life est disponible sur iOS et Android. Et rendez-vous sur savelife.fr pour avoir plus d'informations. À bientôt.
À bientôt, merci.
C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de Mondo Blog Audio qui, cette semaine encore, vient en écho au thème de notre émission. Direction Haïti, où le blogueur Nelson Deshommes dresse un état des lieux des enjeux de la télémédecine dans un pays comme le sien, vulnérable aux catastrophes naturelles.
Dans le monde actuel, aucune activité humaine n'est totalement indépendante de l'intervention des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information. Depuis quelques années, Haïti fait l'expérience de la télémédecine. Cette nouvelle pratique permet de réduire les risques de décès. Pour Haïti, c'est un pas de géant vers la modernisation. La télémédecine est une application des TIC qui améliore l'accessibilité aux soins en combattant la distance et l'isolement. Cette voie alternative permet aussi de combler le déficit en ressources humaines auquel le pays fait face. Télétransmission, téléconsultation, télésurveillance, la télémédecine touche à de nombreux domaines. Des transferts de données à l'action du praticien, en passant par le suivi du patient à distance, les applications de la télémédecine sont vastes. Après le tremblement de terre, le 12 janvier 2010, la situation sanitaire s'est considérablement aggravée en Haïti. Avec moins de 6 médecins ou infirmières pour 10 000 habitants, le pays est loin de la norme minimale de l'OMS qui est de 25 professionnels pour 10 000 habitants. Très souvent, les Haïtiens qui en ont les moyens vont se faire soigner dans un pays étranger, en prenant le risque de mourir pendant le voyage. Pourtant, avec un bon partenariat entre le secteur privé et l'État, on pourrait investir dans les nouvelles technologies et développer la pratique de la télémédecine. Ainsi, les TIC nous permettraient de rattraper le temps et les citoyens pourraient être mieux soignés sur place.
Mieux soignés grâce aux nouvelles technologies, c'est de moins en moins un rêve. Haïti, télémédecine, la technologie au service de la santé, c'est un article de Nelson Deshommes à retrouver sur son blog Travaillons pour un autre Haïti et sur mondoblog.org où vous pouvez, je vous le rappelle, réécouter tous les mondoblogs audio diffusés à ce jour. C'est la fin de cette émission que vous pouvez entendre en version longue sur notre podcast. Elle a été préparée avec Camille Deloche, Léo Caravagna et Camille Sarrazin. À la réalisation, Simon De Creuse, au micro, Steven Jambeau. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. On parlera de l'anonymat et du pseudonymat sur Internet, mais aussi des 15 ans, oui 15 ans déjà, d'un réseau social nommé Facebook. D'ici là, et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner au podcast de l'Atelier des médias.